Bonjour, c'est Nicolas Carreau. Aujourd'hui, je vous emmène visiter la bibliothèque d'Isabelle Carré et des livres. Chez elle, il y en a partout. Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. On est en plein Paris, dans un appartement tout petit.
Oui, et il y en a un peu partout, il y a plusieurs étages. Des toutes petites pièces, ouais.
Avec rempli de livres.
Un bordel. Je suis contente que ça soit pas une caméra, je vous assure.
C'est ça ce qui est fou avec la radio, quoi. C'est que ça me permet de rentrer chez vous.
Sinon, je
si
vous aurais
une caméra, j'aurais pas pu venir.
J'aurais pas eu moyen.
Mais alors, là, donc, on est dans une petite pièce.
Qui est censée être un bureau.
Sur lequel sont posés plein de livres. Ça doit être compliqué de travailler dessus, là.
On peut pas, ouais, en fait. On travaille sur la table de la salle à manger. Ce bureau, en fait, c'est. L'endroit où on essaye de mettre le plus de livres possible, mais là, il n'y a déjà plus de place.
Et là, il y a deux murs donc remplis de livres. Bah, c'est oui. Plutôt des beaux livres ici.
Oui, alors en dessous, non, c'est voilà, plein de livres
en vrac.
En vrac qui viennent de sortir et qu'on vient d'acheter. Et en haut, là, il y a tous les livres de photos.
Marilyn Monroe.
Voilà, moi, alors ce que j'adore, c'est Francesca Woodman, là.
Ah ouais.
C'est Michel Spinoza. J'arrive pas à l'attraper. Ah si, voilà. C'est Michel Spinoza, en fait, avec qui j'avais tourné dans Anna M, qui m'avait fait découvrir la photographie, dont Francesca Woodman. Et depuis, je suis complètement dingue de... J'ai même la chance d'avoir une photo d'elle.
Ah oui.
C'est mon trésor précieux, cette photo de Francesca Woodman. C'est le seul trésor que j'ai.
Ce sont des photos en noir et blanc.
Elle se met en scène elle-même, et c'est toujours dans des choses de apparition-disparition.
Oui, il y a quelque chose de fantomatique.
Voilà, c'est ça. Les fantômes ne me dérangent pas à partir du moment où c'est des aussi jolis fantômes qu'elle, là, comme on la voit, contre un mur flou avec une grande natte, ses cheveux. Où, là, par exemple, elle s'est mis des copeaux de bois autour des poignets et des bras. Et on a l'impression qu'elle-même est devenue un peu comme un arbre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette photographe. Mais voilà, Michel Spinoza m'avait fait découvrir aussi Cindy Sherman.
Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?
En ce moment, je lis le dernier livre de Aaron Appenfeld.
D'accord.
J'avais adoré Les Partisans.
Qui est mort,
il y a un mois
semaines,
à peu près.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Et ce livre est magnifique.
Israélien.
Mais il est là-haut.
D'accord, bon, on va aller voir. Là, on est dans l'escalier.
Voilà, c'est en fait pour
toute une bibliothèque dans l'escalier, c'est
caser
magnifique.
Ces livres qu'on n'arrivait pas à caser. Et voilà, et là par exemple, on peut voir beaucoup de livres sur Sylvia Plath. Je voulais faire un spectacle sur elle, mais en fait c'était très compliqué d'avoir les droits.
Ouais.
Sa fille qui a les droits s'y oppose et du coup on avait travaillé pendant des mois sur un spectacle qu'on n'a pas pu faire. En fait, dans mon livre, j'ai même mis un poème d'elle. C'est un texte que j'aime beaucoup. Ah, mais je crois qu'il est là-haut, en fait, parce que j'ai l'anthologie de ses poèmes. Et en fait, c'est un poème, je crois, qu'on trouve dans Arbre d'hiver et qui s'appelle Vertical. Ça commence par « Je suis vertical, mais je voudrais être horizontal. »
Mais qu'est-ce qui vous plaît chez elle ?
Ce qui me touche beaucoup, c'est...
Le personnage
Déjà, dès ses journaux, quand elle a 17 ans, et puis tout au long de... Oui, tout ce qu'elle écrit, on sent un tel doute... Et on sent qu'elle est toujours en train de dire « j'aimerais écrire » et en fait, elle est en train de le faire. Elle est en train d'écrire des choses magnifiques, mais elle ne cesse de se projeter vers un futur où elle serait capable d'écrire ce qu'elle a dans la tête. Et elle ne voit pas qu'elle est en train de le faire et que c'est magnifique ce qu'elle fait. Et ça me touche beaucoup parce que j'ai l'impression que, oui, parfois on n'est pas le meilleur juge pour soi-même et... Et son œuvre, en fait, elle l'a conçue sans le savoir. Par exemple, je crois que c'est là une des premières lettres magnifiques qu'elle écrit, je crois, à sa mère. Oh, je ne sais pas si je vais le trouver. Ça, c'est « Je me croyais invulnérable ». C'est pas celle-là. C'est une lettre, en fait, où elle s'appelle elle-même « La fille qui voulait être Dieu ». Ni plus ni moins. Voilà, c'est ça. À compter d'aujourd'hui, je vais tenir à nouveau un journal afin d'y coucher mes pensées et mes idées, quand j'en aurai le temps. Il faut absolument que je préserve ce miracle, avoir 17 ans. Chaque jour m'est si précieux que je suis terriblement attristée en voyant le temps m'échapper alors que je vieillis. C'est à présent que je vis le meilleur de ma vie. En ressongeant aux 16 années déjà écoulées, je revois les heures de bonheur et de malheur dans leur relativité avec leur importance fort relative et elles me tirent toutes le même sourire. J'ignore encore qui je suis, peut-être l'ignorerai-je toujours. Mais je me sens libre. dégagée de toute responsabilité, libre de m'isoler dans ma chambre entre mes murs couverts de dessins ou de photos. Ma chambre me convient parfaitement, paisible, peu encombrée, bien arrangée. J'adore la ligne paisible des meubles, les deux étagères pleines de recueils de poésie ou de livres de contes conservés depuis mon enfance. En 7 heures, je suis très heureuse, assise à mon bureau, d'où je vois les arbres dénudés de la maison d'en face. Je désire observer toujours. Je désire être profondément touchée par la vie, sans jamais être aveuglée, au point de ne pouvoir voir mon sort d'un œil plein d'humour, ni rire de moi-même comme je ris d'autrui. Je redoute de vieillir, je redoute de me marier, que me soit épargnée l'obligation de cuisiner 3 fois par jour, épargnée l'inexorable piège de la routine et de l'encroûtement. Je veux être libre, libre de connaître des gens avec leur passé, libre de découvrir d'autres milieux et d'autres morales, ou d'autres critères que les miens. Je crois que ce que je désire, c'est d'être omnisciente. Si je devais me donner un nom, ce serait la fille qui voulut être Dieu.
C'est magnifique. Mais à la fois, c'est terrible d'être très heureux, vraiment comblé, et en même temps se dire déjà qu'on va forcément être malheureux parce qu'on vieillit.
Quelque chose en vieillissant. Je crois tout le contraire.
Vous n'êtes pas d'accord avec elle?
Ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec elle, mais ça me touche qu'elle pense ça. Et je vois son inquiétude, c'est ça qui me touche, c'est ce personnage, c'est cette femme, c'est son inquiétude, sa fragilité, l'idée que, comment dire, oui, être Dieu, quoi, cette pression qu'elle se met elle-même. De performance, de parvenir toujours, ce que je disais tout à l'heure, à écrire de grandes choses sans s'apercevoir qu'elle est en train de le faire, sans s'apercevoir qu'elle a déjà cette beauté en elle.
Je vois des Daniel Pennac juste à côté. Tout le monde a des Daniel Pennac dans sa bibliothèque. Mm-hmm. Vous aimez bien ?
Moi, j'aime bien et j'aime beaucoup l'homme.
Oui.
J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, même d'aller manger un couscous avec lui. Qui sait écouter, qui s'intéresse vraiment aux autres, qui n'est pas que dans son univers, qui sait en sortir pour vous accueillir aussi.
Je parie que votre préféré, c'est Chagrin d'école.
Je ne sais pas. J'ai du mal à dire quels sont mes préférés.
En tout cas, il y a beaucoup de pages cornées.
Oui, mais ça, je corne beaucoup.
Mais pas en marque-page.
Et non. Et j'abîme le livre, et même parfois je souligne et j'écris des choses. Ou alors, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je recopie. Mais je recopie des phrases et ça me fait des cahiers avec plein de phrases. Mais quand je commence à recopier tout le livre, là, je me dis, faut que j'arrête, quoi. J'ai qu'à le relire, en fait.
Mais est-ce que vous les relisez ?
Oui, oui, ça m'arrive. Par exemple, cet été, j'ai découvert Carson McCullers. Je ne connaissais pas du tout.
Ils ont tout réédité chez Stock.
Voilà, j'ai profité de cette réédition. Je suis bien reconnaissante à Stock d'avoir fait ça. Et l'édition, en plus, est magnifique. Et j'ai découvert, surtout Le cœur est un chasseur solitaire, mais j'ai tout lu, du coup, même ses nouvelles. Et j'ai adoré parce qu'elle parle de cette intériorité, d'une solitude qui pousse les gens à rentrer dans les cafés parce que c'est allumé et parce qu'on peut se réchauffer les uns aux autres, même sans se parler, juste en se côtoyant. Et j'aime beaucoup les gens, en fait, les auteurs qui savent pénétrer dans l'intériorité des personnages et on a l'impression qu'on vit en eux. Et cette solitude aussi, c'est toujours un thème qui me touche beaucoup.
C'est fou parfois de découvrir un auteur et de se dire comment j'ai fait avant.
Sans lui ?
Ouais.
Eh oui. Mais ça, c'est une source d'angoisse.
Eh oui.
Rater un auteur, quoi.
Parce que ça veut dire qu'il y en a forcément qu'on n'a pas découvert, mais qu'il reste à découvrir. C'est ça ce qui est beau aussi.
Voilà, mais forcément, on va en louper, quoi.
Mais oui. Alors. Donc là, on arrive dans votre chambre.
Oui, c'est très intime.
Ouais, je suis un peu intimidée. Hein,
bah, j'espère bien.
Et là, vous n'avez pas une table de chevet.
Non.
Vous avez un parquet de chevet avec des montagnes de livres à côté de votre lit.
Oui, et encore, j'ai fait le tri avant que vous soyez là parce que c'était encore plus
bordélique. Parce que vous n'arrivez pas à vous décider, savoir lequel garder à côté de vous précieusement ou c'est parce que vous avez eu la flemme de le ranger ?
Non, en fait, j'aime bien qu'il soit là. C'est vrai que leur présence, c'est pas forcément... c'est des livres que j'ai lus pour la plupart, mais voilà, par exemple, Raymond Carver, qu'est-ce que vous voulez voir ? J'aime bien qu'il soit à côté de moi.
Le Paul Auster 4-3-2-1 qui vient de sortir.
Qui est complètement corné dans tous les sens.
Il fait 1000 pages, c'est déjà un gros pavé, mais comme vous l'avez corné, il a encore pris plus de volume. C'est l'histoire, donc, d'un homme... mais avec 4 vies alternatives.
4 possibilités.
On l'a reçu dans l'émission il y a quelques semaines. Et donc, il y a chapitre 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,
etc. Il aurait pu se contenter de faire première partie avec toute la vie, deuxième partie avec une autre possibilité de vie. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, il imbrique tout et qu'il ne nous perd jamais malgré ça. Donc, c'est...
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'ai adoré parce que je suis obsédée, moi, par les choix. Le fait, qu'un choix, même infime, puisse influencer toute notre vie. Je suis complètement obsédée par ça. Dans Les Rêveurs, à la fin du livre, je parle d'une lettre qui a été déchirée trop tôt ou trop vite et qui fait que je suis là aujourd'hui. Si cette lettre n'avait pas été déchirée, je ne serais pas là en train de vous parler. Un livre que j'adore, c'est une pièce de théâtre d'ailleurs, de Max Frisch, qui s'appelle Biographie en jeu. Et en fait, il lui demande, un personnage qui pourrait être le diable, lui propose au héros de changer un événement de sa biographie. Un événement qui a été pénible, douloureux, enfin, voilà. Et en fait, il essaye, le premier événement qui lui vient, c'est effectivement dans la cour d'école, il a blessé un camarade qu'il a rendu aveugle avec un pistolet de balle à plomb. Il dit ça, j'aimerais vraiment le changer, quoi. Mais après, il se rend compte que s'il avait changé ça, il n'aurait pas changé d'école, il n'aurait pas rencontré telle personne, il n'aurait pas, etc. Donc il dit, finalement, ça ne va pas être possible de changer ça parce que j'ai trop besoin de... Puis après, il dit, mon divorce, alors, parce que c'était vraiment dans un bain de sang. Puis il se rend compte que s'il n'avait pas divorcé de cette façon-là, il ne se serait pas trouvé, rencontré telle personne après qui l'a consolé et qui, finalement, a été la bonne personne. Et il finit par se dire, je ne change rien. Ça me rassure.
Ouais. Juste à côté, il y a un de mes livres préférés, « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » d'Harper Lee. C'est un livre de jeunesse ou vous l'avez découvert récemment ?
Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'était au mois de juin dernier, juste avant « Le cœur est un chasseur solitaire ». D'ailleurs, je trouve qu'ils ont des points communs.
Avec Carson McCullers ?
Oui. Bon, déjà, ça se passe dans le sud.
En Alabama, c'est Scoot qui raconte l'histoire de son père qui doit défendre un homme noir accusé d'avoir violé une blanche. Mm-hmm. Et du coup, toute la communauté fait bloc contre cette famille qui défend un noir.
C'est ça, et surtout, c'est le regard de cet enfant.
Ouais.
Moi, c'est ça qui m'a plu, c'est vraiment le...
12 ans.
Elle a 12 ans et on a ses yeux, tout à coup, on voit comme elle voit, on pense comme elle pense. Je ne sais pas comment l'auteur a pu être aussi juste par rapport au regard d'un enfant. Et elle est tellement attachante et elle nous broie le cœur, quoi.
Et en même temps, il y a beaucoup de romanesque là-dedans. Mm-hmm. C'est une vraie histoire qui emporte, quoi, qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, ouais, vraiment. Mm-hmm. Quoi. Mm-hmm.
Oui, c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans Carson McCullers. C'est-à-dire que peut-être on s'autoriserait moins ce romanesque aujourd'hui.
Ah tiens, François-Henri Désérable.
Ah oui, alors je ne l'ai pas encore lu. Pourtant, j'avais très très envie de le lire et je ne l'ai pas encore lu.
Un certain Monsieur Piekielny parle de La promesse de l'aube.
La promesse de l'aube ici aussi. Ah. Et donc, j'avais très envie de savoir qui était cet homme.
Est-ce que vous aimez La promesse de l'aube ?
Oui, beaucoup.
Ah ben, ça va vous
comme
plaire,
vous avez
ça,
pu
forcément.
Le constater, j'aime beaucoup les livres qui parlent de l'enfance. J'adore l'idée de ce François-Henri Désérable là, qui va enquêter sur un personnage de roman, enfin de roman, mais qui existe.
Ouais, un personnage de fiction qui existe ou qui n'existe pas, on ne sait pas vraiment.
Qui voulait, en fait, qu'on parle de lui dans Paris.
Oui, qui dit à Romain Gary, tu seras un grand homme, donc dis aux grands de ce monde que
j'existe.
Dans telle rue à Villeneuve habitait un certain monsieur Piekielny.
Moi, ça me fait penser, un jour, j'avais j'étais en train de retirer de l'argent à un distributeur, et il y a un clochard qui arrive vers moi et qui me dit, je pensais qu'il voulait... que je lui donne de l'argent, qui me dit « Parlez-moi de moi ». Alors je dis « Comment ça, parlez-moi de moi ?» Je n'ai pas compris, quoi. Ben si, parlez-moi de moi, qu'est-ce que vous pensez de moi, là, quand vous me voyez ? Qu'est-ce que je vous inspire ? Dites-moi quelque chose sur moi, parlez-moi de moi, s'il vous plaît. En fait, je ne crois pas qu'il était fou, je crois qu'on est tous un peu comme ça, quoi. En fait, on rêve d'une rencontre où, par exemple, dans un livre, où on se lit et on vous parle de vous.
C'est... une conclusion parfaite. Donc on va vous laisser là.
Ça y est, c'est
là.
Fini ?
Bah oui.
Ah, dis donc, c'était rapide.
Bah oui, ça va trop vite, il y a trop de livres. Mais
bah
bon,
ouais, j'aurais bien parlé encore de tout cela, mais... Bon. Nos débuts dans la vie, Modiano. Vous savez, je le croise au jardin du Luxembourg.
Et vous lui parlez ?
Et je lui parle. Et il a toujours la gentillesse de s'arrêter. et toujours la gentillesse de discuter avec moi. Et j'aime énormément la façon dont il écrit, évidemment, mais aussi dont il s'exprime. Je sais que les gens sourient en le voyant s'exprimer. J'avais adoré son discours quand il a reçu le prix Nobel, où il avait dit, d'abord il parlait de lui en disant « il », ça je trouvais ça très beau, et il disait peut-être qu'il a du mal à s'exprimer verbalement, à parler haut et fort, peut-être que ça vient du fait qu'il est tellement habitué à raturer ses écrits.
Oui, il cherche le bon mot, il cherche même en parlant. Bon mot,
voilà. Et aujourd'hui, on devrait tous avoir le sens de la répartie, être hyper efficace, trouver le point final de chaque phrase et faire un bon mot. Et lui, il est à l'opposé de ça. Ouais. Et ça fait du bien.
Il dit tant pis, je vais prendre mon temps, mais je vais trouver le mot exact.
Ou je vais pas trouver, mais c'est pas grave.
Ou tant pis. Bon, mais merci beaucoup Isabelle merci Carré de nous avoir reçus. À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup.
C'était chouette.
Partez avec moi visiter d'autres bibliothèques en vous abonnant sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée et évidemment sur le site et l'application Europe 1. À très vite.